Dans son cœur, le fou déclare pas de Dieu. Je suis assez d'accord avec le psalmiste. Pour prétendre que Dieu n'existe pas, il faut être fou ou tout simplement insensé. C'est-à-dire que cette affirmation, il n'y a pas de Dieu, est une affirmation, si ce n'est folle ou insensée, tout au moins sotte. Parce que cela suppose d'abord d'avoir une certaine conception de Dieu, de savoir ce que l'on entend par là. Or, ce que l'on met sous le mot de Dieu peut être des tas de choses extrêmement différentes. Dieu, c'est ce en quoi l'on croit. Mais je pense que tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde a un Dieu, en quelque sorte. Pour certains, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Pour d'autres, c'est le Dieu argent, le Dieu pouvoir, ou le Dieu violence. Mais en tout cas, tout le monde croit dans quelque chose, ou dans un certain Dieu. Et donc, l'existence de Dieu est un faux problème. Ce n'est pas une question, parce que, comme je vous disais, croire ou ne pas croire en Dieu suppose une théologie préalable. Et même les athées, ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu ». En fait, avant d'être athées, ils sont théologiens. C'est-à-dire que celui qui dit ne pas croire en Dieu a déjà une idée de ce qu'est Dieu. Donc tout athéisme repose sur une théologie. Or, il est assez remarquable que la plupart des athées ont une théologie incroyablement, je dirais, réactionnaire, orthodoxe dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire une théologie, en fait, simpliste et enfantine. Et beaucoup d'athées sont en fait des gens qui réagissent par rapport à un catéchisme infantile qui leur a été imposé dans leur enfance et contre lequel ils réagissent. Pour beaucoup, ne pas croire en Dieu, c'est dire « mais je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un assis sur un nuage avec une grande barbe qui puisse donner la vie ou donner la mort, empêcher les guerres ou les créer et qui puisse faire n'importe quoi sur terre ». Ma réponse, qui parmi les croyants croit à cela? Par conséquent, je dirais souvent, les athées sont des gens qui ont à la base une théologie incroyablement construite et souvent bien classique, voire superstitieuse. Autrement dit, je vous affirmais, j'insiste, dire « je ne crois en rien » est absurde. Ou alors il faudrait être moins qu'un chien qui croit au moins dans sa gamelle ou dans son maître. On croit toujours en quelque chose, donc la question c'est en quoi? Alors l'athée, vous disais-je, refuse une certaine idée de Dieu. L'athée, c'est un peu quelqu'un qui se fait des tigres en papier pour pouvoir ensuite mieux les détruire. Mais l'athée se fait une certaine idée de Dieu qu'il rejette, et de cela au moins on peut discuter. Et même entre chrétiens, si on commence à parler de ce qu'est Dieu ou de qui est Dieu, il va y avoir des discussions infinies. Il y a 1000 images différentes de Dieu. Et tout le monde ne sera évidemment pas d'accord là-dessus, ne serait-ce qu'entre ce clivage absolument incroyable, qui certainement même sépare, divise l'assemblée que nous formons, entre ceux qui croient dans un Dieu personnel, un Dieu qui est une personne, et ceux qui croient dans un Dieu qui n'est pas une personne, mais qui est une puissance cosmique à l'œuvre dans le monde, que je ressens en moi comme une relation personnelle. Donc vous voyez, il y a de très nombreuses différences dans la façon avec laquelle nous concevons Dieu. Mais les seules choses sur lesquelles je crois tous les chrétiens sont d'accord, c'est de croire dans un Dieu qui est amour, pardon, grâce et paix. Autrement dit, le croyant, c'est celui qui prend le nom de Dieu et qui le remplit de tout ce qu'il aime, de tout ce en quoi il croit. Donc, si vous voulez, Dieu en soi-même pourrait même n'être rien d'autre qu'un grand sac dans lequel on va mettre tout ce qu'on aime et on va dire « ça, c'est en ça que je crois ». Donc le croyant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du nom de Dieu. Il va dire « Dieu, c'est ce que j'aime ». Alors, dedans, je vais mettre l'amour, le pardon, la paix, la fraternité, l'espérance, la vie. Ça, c'est ce que j'aime. C'est en ça que je crois. Et c'est ça que je veux servir dans ma vie. c'est ça qui me motive, c'est ça qui donne sens à ma vie, c'est en ça que je crois, c'est mon Dieu. L'athée, il fait le contraire. Il prend un grand sac, cette fois un sac poubelle, dedans il met tout ce qu'il n'aime pas, la haine, l'intégrisme, les obscurantismes, l'intolérance, la violence, la pédophilie des prêtres, les croisades. Il met tout dans le grand sac, il écrit Dieu dessus et il dit « je n'y crois pas ». Mais dans le fond, tout le monde a un sac d'honneur et un sac poubelle. Simplement, les croyants, sur le sac d'honneur, ils écrivent « Dieu » et sur le sac poubelle, ils écrivent « poubelle »,« diable », ce que vous voulez, « mal ». Et les athées font le contraire. Bon, alors, après, on donne le nom qu'on veut, c'est qu'une question de terme. Donc, autrement dit, effectivement, dire « il n'y a pas de Dieu » en tant que tel est une affirmation idiote et stupide. Et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit ça qui soit visé dans ce psaume 14. Tous les bons ouvrages nous disent que dans l'Antiquité, il n'y avait pas véritablement d'athéisme. Dans l'Antiquité, cela n'existait pas. Je pense que ce qui est visé dans ce psaume, c'est en fait une sorte d'athéisme pratique. C'est-à-dire que ces fous, ces insensés, ces pécheurs, ces méchants, ils vivent comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et ça, cela peut être compris de différentes manières. Et ce sont, je crois, des menaces qui planent encore sur notre propre vie aujourd'hui. Le sens le plus évident, celui qui est certainement présent à la base dans ce psaume, c'est qu'en fait, ceux qui vivent mal, qui font le mal parce qu'ils ne croient pas en Dieu, font n'importe quoi parce qu'ils croient qu'il n'y a pas de jugement. Alors, s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a ni enfer ni paradis, alors faisons n'importe quoi, assassinons notre prochain, volons, violons, violentons, faisons tout et le contraire, puisque ça n'a aucune conséquence sur notre salut. Cet argument m'ennuie un peu, parce que aujourd'hui, nous n'aimons pas trop l'idée de jugement. Et si nous croyons dans un Dieu aujourd'hui, ce n'est pas tellement pour croire dans un Dieu qui nous menacerait d'enfer si nous faisions le mal. Et je ne pense pas que quiconque ici fasse le bien en se disant « il faut que je fasse le bien, sinon Dieu m'enverra en enfer ». En tout cas, ce n'est pas ce que nous lisons de la prédication du Christ. Et donc cet aspect du psaume 14 me semble difficile à rattraper, à moins que ce qu'il veuille dire, et la façon peut-être moderne de le récupérer, ce serait de dire que, non pas d'une question de jugement, mais il n'y aurait pas de critères du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il n'y aurait rien qui permette de savoir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, et qu'à ce moment-là, tout serait indifférent, autrement dit, sans bien ni mal. Et ça, c'est peut-être ça, Dieu, ou même cette idée de jugement. Il ne s'agit pas de juger les êtres, il s'agit d'avoir un moyen d'être capable de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, nous en avons besoin pour pouvoir vivre. Et si on n'a plus ce critère, si l'on pense qu'il n'y a pas de critère entre le bien et le mal, pas de critère universel, pas de critère transcendant, pas de critère qui nous dépasse, pas de critère au-delà de nous-mêmes, alors on en vient à penser que la seule chose qui doit nous diriger dans le choix du bien et du mal, c'est notre propre plaisir ou notre propre déplaisir. Ça, ça a un nom dans la théologie classique, ça s'appelle le péché originel. Le péché originel, c'est ça. Adam et Ève qui décident à un moment donné que le bien et le mal, ce n'est pas quelque chose qui doit être fixé par l'universel, par Dieu, par le collectif, si vous voulez, par l'absolu, mais décide que le bien et le mal, c'est eux-mêmes qui vont prétendre ce qui est bien et mal. Et Ève mange du fruit, et elle appelle Adam et lui dit « Écoute, mange-en, parce que moi, je trouve ça bon à manger, agréable à la vue, et propre à donner du discernement. » Et donc, elle déclare bien ce qui lui plaît, c'est-à-dire qu'elle se fait elle-même son propre critère du bien et du mal. Et ça, c'est assez grave, parce que c'est effectivement cela qui arrive. S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas d'universel, s'il n'y a rien au-delà de moi, Alors, il n'y a pas d'autre centre dans la vie que moi-même. Et alors, comme Adam et Ève, je suis le centre de mon propre monde. Et donc, tout ce que je demande au monde, c'est de m'apporter de la satisfaction. Et le seul critère pour moi de mon choix d'existence, c'est ce qui m'apporte le plus de plaisir et de bien-être. Et le reste, je me fiche des autres, ils n'ont qu'à appliquer la même méthode. Et chacun essayera par là de faire son propre bien. S'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y a pas d'autre centre dans la vie que soi-même. Parce que justement, croire en Dieu, c'est dire que le centre de sa vie, il est ailleurs qu'en soi-même. C'est penser qu'il y a quelque chose de plus important que soi, au service duquel on peut se mettre. C'est de penser que l'essentiel, ce n'est pas soi-même, mais c'est quelque chose d'autre qui me dépasse et qui est de l'ordre de l'universel et du transcendant. C'est penser également donc que le critère du bien et du mal ne se trouve pas par rapport à moi-même, mais par rapport à une cause plus grande que moi, par rapport à un idéal plus élevé que moi-même et qui est au-delà de mon propre principe de plaisir ou de déplaisir. C'est ça, je crois, qui fait la rupture fondamentale entre celui qui croit dans un Dieu et celui qui ne croit pas en Dieu. Et si je ne crois pas en Dieu, alors je crois en moi, autrement dit. Et je pense que c'est important parce que si je n'ai pas de Dieu, alors il n'y a en fait même plus de place pour les autres dans la vie. Les autres ne comptent plus et ne sont plus que des gens qui m'embêtent ou qui peuvent éventuellement me servir si ça se passe bien. Et il n'est pas étonnant ainsi que l'on trouve bien sûr dans le commandement même de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que se tourner vers Dieu, c'est admettre que l'on ne soit pas le centre et donc admettre aussi l'importance des autres. Et puis s'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y a pas d'absolu, pas de transcendance. Et s'il n'y a ni absolu ni transcendance, alors le monde n'a même pas de sens en lui-même. Ou plutôt le monde, s'il n'y avait ni absolu ni transcendance, pardon, alors le monde ne tiendrait son sens que par lui. Mais celui qui croit en Dieu, il va dire le sens du monde. Ce n'est pas le monde lui-même, mais il le tient d'ailleurs. Et qu'il existe un bien et un mal d'une façon universelle. Alors ainsi, croire en Dieu, c'est croire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Qu'il y a quelque chose au service duquel on peut se mettre qui ne soit pas nous-mêmes. Qu'il y a peut-être une cause au-delà de nous-mêmes. Et qu'ainsi il y a une universalité, c'est-à-dire un idéal, qu'il y a effectivement des choses qui sont bien et des choses qui sont mal, en dehors de moi-même, et qui ont du sens. Et si l'on n'a pas ça, alors le monde n'a pas de sens, alors il n'y a ni bien ni mal, alors il n'y a pas d'universel, il n'y a rien qui organise le monde, il n'y a aucun critère en dehors de moi par rapport à savoir ce qui est bien pour moi. Et à ce moment-là, je deviendrai moi-même un abominable et un homme de rien. C'est ce que dit le psaume. Dans son cœur, le fou déclare pas de Dieu, tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. Et c'est peut-être ce que voulait dire le psalmiste. Mais il y a une autre solution. Il y en a plusieurs autres d'ailleurs. C'est de dire que Dieu, ce n'est pas simplement l'idéal ou l'absolu. Dieu, ce n'est pas simplement ce qui me sort de moi-même, le non-égoïsme en quelque sorte, mais que Dieu, c'est aussi une certaine façon de voir le monde, une certaine façon de concevoir le monde, et qu'il y a là le choix d'une manière d'être dans le monde et de concevoir le monde. Voir le monde sans Dieu, c'est le voir comme il est, c'est-à-dire comme n'étant pas très brillant, comme n'étant qu'une scène, effectivement, de violence, de méchanceté, de brutalité et de souffrance. Et il est vrai que s'il n'y a pas de Dieu, alors le monde est désespérant. C'est peut-être ça, une sorte de vision pessimiste, vous voyez, qui apparaîtrait dans ce psaume 14. Le fou, l'insensé, déclarant qu'il n'y a pas de Dieu, Alors pour lui, le monde ne peut que lui apparaître comme étant abominable sans qu'il y ait le moindre bien. Mais on peut voir le monde autrement. On peut voir le monde à travers, je dirais, les yeux de Dieu. Voir le monde comme Dieu le voit, c'est-à-dire avec tendresse et avec bonté. Voir le monde avec un regard sélectif qui consiste à regarder, non, à ne pas voir le mal, mais à voir le bien. Tout le temps, on nous dit que Dieu est un Dieu de miséricorde et de pardon. Cela veut dire que Dieu a un regard sélectif dans le monde. Dieu choisit une fois pour toutes de regarder le bien, de le garder, de le conserver, de construire là-dessus, et d'oublier le mal. De dire le mal, c'est du déchet, c'est des scories, je ne les regarde pas, je les jette. Et donc Dieu est celui qui choisit de garder uniquement le bien pour oublier et perdre le mal. Donc Dieu a effectivement sur le monde un regard amoureux, je dirais. L'amoureux, quand il regarde son amoureux ou son amoureuse, a un regard sélectif, c'est-à-dire qu'il ne voit que le bien, et le mal, il ne le voit pas. Et du coup, chacun ou chacune qui est aimé devient le plus beau ou la plus belle du monde. Et donc nous sommes invités, je crois, à avoir, par rapport au monde, cette espèce de regard amoureux qui fait qu'on voit non pas le mal, qu'on ne s'attache pas aux défauts, aux problèmes, mais que l'on ne regarde que le bien et qu'on garde le bien. Et ce qui est remarquable, c'est que ce regard transforme le monde. Cela, on le voit parce que, effectivement, quelqu'un qui est amoureux et qui est aimé, tout de suite, tout le monde le voit. On se rend compte que tout à coup, la personne devient beau ou belle, rayonnant ou rayonnante, devient harmonieuse. Et je pense que le regard que nous portons sur le monde est aussi un regard qui peut transformer le monde. Et un regard que nous portons sur notre propre vie peut aussi transformer notre propre vie. Donc nous sommes invités à avoir justement sur le monde un regard qui est le regard de Dieu, pour voir à travers l'amour que Dieu a pour le monde. On trouve cela dans plusieurs endroits dans la Bible. D'abord dans le Cantique des Cantiques. Quand le bien-aimé qui est Dieu dit à la bien-aimée qui est l'homme, il dit « Ce que j'aime en toi, c'est que, dit-il, tes yeux sont comme des colombes. » Bon, déclaration d'amour qui vaut ce qu'elle vaut, mais néanmoins, théologiquement, elle est importante. Parce que la colombe, c'est la colombe du Saint-Esprit. Et Dieu dit à l'homme « Ce que j'aime en toi, c'est quand tes yeux sont comme des colombes, c'est-à-dire que tu arrives à porter sur le monde le regard qui est celui du Saint-Esprit, que tu regardes le monde avec le regard de Dieu, avec un regard d'amour, de bonté et de tendresse. » De même, dans l'Évangile, on trouve, à plusieurs endroits, un aveugle, celui qui ne voit rien. Et Jésus le guérit en lui mettant sa salive sur les yeux. Et la salive, c'est ce que j'use à vous parler, la salive, c'est la parole. Et donc, il lui invite à regarder le monde à travers la parole du Christ. Et quand on regarde le monde à travers une parole de grâce, le monde apparaît différent. Et à ce moment-là, le monde apparaît non plus moche, mais il apparaît beau. Parce qu'on sait voir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est de l'amour, de la tendresse. Et ça change tout. Alors maintenant, on peut choisir de vivre dans un monde désespéré. Et on peut choisir de le vivre dans un monde de joie et d'enthousiasme. C'est en tout cas ce que nous propose l'Écriture. Et je pense qu'effectivement, nous pouvons avoir ce regard d'amour sur le monde qui transforme le monde et qui fait que justement, pour le croyant, rien n'est désespéré, rien n'est moche, rien n'est vilain, mais c'est tout le contraire. Et dans l'Évangile également, je vous ai lu tout à l'heure ce passage, un peu étrange, qui dit « L'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bonne santé, tout le corps est en bonne santé. Et si l'œil est malade, alors tout le corps est dans l'obscurité. » L'œil est la lampe du corps. Donc ce qui éclaire notre vie, ce n'est pas notre vie elle-même, c'est la façon avec laquelle nous regardons les choses. Et si nous regardons les choses positivement, notre vie elle-même est illuminée et nous devenons nous-mêmes une lumière pour le monde. Si notre œil est en mauvaise santé et que nous ne voyons que le noir, nous devenons pour le monde des agents de ténèbres. Et c'est un choix effectivement assez important. Autre façon de voir à propos de Dieu, l'enjeu de savoir si on vit avec ou sans Dieu, c'est pas simplement de voir Dieu comme une action de grâce, mais de voir Dieu comme créateur. Et ça aussi, ça change tout. Voir Dieu comme un dynamisme et du coup de voir le monde comme le chantier et l'œuvre de Dieu. Parce qu'en effet, la question, elle est là quand même. Quand on regarde le monde, est-ce qu'on juge le monde comme une œuvre d'art terminée et on dira, ah ben, c'est pas terrible, il y a encore beaucoup de souffrance et de mal? Ou est-ce qu'on se dit, le monde, je le regarde non pas par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il pourrait devenir? C'est-à-dire qu'on a une vision dynamique du monde. S'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y a pas de création, alors il n'y a pas de projet, et le monde ne mène nulle part. Croire en Dieu, c'est croire qu'il y a un projet possible, qu'il y a une dynamique possible, et que notre vie à nous peut changer, que le monde peut progresser, c'est-à-dire c'est se plonger justement dans une vision constructive du monde. Et je pense que la question, elle est là. Est-ce que l'on regarde les choses par rapport à ce qu'elles sont ou par rapport à ce qu'elles sont invitées à devenir? C'est pourquoi d'ailleurs, je pense que l'on aime les enfants, même s'ils font plein de bêtises et qu'ils sont parfois insupportables. C'est parce qu'on se dit, ils sont en devenir. Et peut-être que ce petit enfant qui me réveille à 2h du matin et qui est insupportable, peut-être ce sera le sauveur du monde, ou le président de la République, ou un grand homme. Et donc, on le voit par rapport à ce vers quoi peuvent tendre les choses. Et on aime une ébauche parce qu'elle est signe d'une réalité à venir. On n'aime pas une ébauche simplement pour ce qu'elle est, mais pour ce à quoi elle renvoie. Et donc, s'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y a pas de projet, et le monde est vu comme il est, abominable. Si je crois en Dieu, alors chaque problème du monde, je ne le vois pas comme un problème, mais comme un lieu où je vais pouvoir faire quelque chose, enfin, pour améliorer les choses. Et donc, croire en Dieu, c'est dire, comme d'une façon un peu triviale, mais qui est un bon ordre de vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème parce que le problème en soi n'est rien, le problème n'est que le lieu où va pouvoir s'exercer la puissance créatrice de Dieu ou mon œuvre avec l'aide de Dieu. Et puis ça n'est pas tout, parce que Dieu, c'est effectivement la création, mais du coup c'est aussi le sens. Et s'il n'y a pas de Dieu, le fou est vraiment fou. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, alors effectivement, on est dans le non-sens. S'il n'y a pas de Dieu, alors tout est absurde. Le monde ne mène à rien. La vie n'a aucun sens. Rien n'a un sens. Rien. Et on est dans l'absurde. Et s'il n'y a pas de Dieu, alors effectivement, comme dit le fou, tout est abominable. Pas un homme de bien. Rien dans ce monde qui compte. Et tout est corrompu. Ça, c'est un thème assez fréquent chez certains croyants qui découvrent justement Dieu comme faisant sens. Et je connais un bon nombre de chrétiens qui ont été convertis par des livres pointant l'absurdité de la vie sans Dieu, comme En attendant Godot ou Les frères Karamazov, et qui disent « Dieu, c'est ce qui donne un sens, justement, et une direction. Et s'il n'y a pas ce sens, alors on tombe dans l'absurdité totale de tout. » Et puis enfin, toujours dans la même direction que tout cela, il y a cette curieuse utilisation du psaume 14 par Paul dans sa lettre aux Romains. Et Paul l'utilise autrement. Ça m'a interrogé aussi. Il l'utilise pour dire tout homme est pécheur. Que tout homme est pécheur et que c'est comme ça, en fait, voilà. Et que s'il n'y avait pas de Dieu, alors effectivement, tout cela serait fondamentalement désespérant. L'idée de Paul, qui est encore un peu difficile à récupérer pour nous, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Et donc, tout homme étant pécheur et tout étant corrompu, s'il n'y avait pas un Dieu pour nous sauver, nous serions tous perdus. Si tout homme est pécheur, comme tous sont corrompus, personne ne devrait être sauvé. Donc pour Paul, sans Dieu, aucun espoir. Dieu est le seul qui puisse nous sauver. Alors comment, une fois de plus, réinterpréter ce type d'affirmation pour nous aujourd'hui, qui pour la plupart ne craignons pas pour le, une éventuelle perdition qui nous menacerait. D'abord, c'est qu'aucune vie ne résisterait à un jugement. C'est-à-dire que Paul applique le psaume par rapport à notre propre vie et pas simplement par rapport à la vision du monde. Aucune vie ne résisterait à un jugement. Parce qu'effectivement, tout ce que je vous ai dit sur le monde, on peut se l'appliquer à soi-même. Et je peux voir en moi qu'il y a du mal, qu'il y a de l'imperfection, qu'il y a du péché, de l'échec. Et je me rends compte que je ne peux pas me sauver moi-même. Et que je ne peux pas essayer de faire de ma vie une sorte d'œuvre d'art, au tel point que je dise au moment de mourir, alors là, mes amis, vraiment, regardez, ma vie est exemplaire et ça, c'est un modèle pour l'humanité. Nous ne pourrons pas faire ça. Et ainsi, le projet même de chaque existence, sans Dieu, devient désespérant. Désespérant parce que si le but de la vie, c'est d'arriver à la sagesse, à la foi, personne ne peut y arriver. Alors à quoi bon se donner tant de mal ? La seule solution que nous propose Paul et qui reprend en fait ce que je vous ai dit jusque-là, c'est de penser que notre vie, elle est aimée. C'est-à-dire qu'elle est sauvée non pas par nous-mêmes ou par ce qui s'y trouverait, mais par rapport au regard de Dieu. Et du coup, si je pense que je suis aimé, alors je retrouve le sourire, dirais-je. Et alors je peux enfin aimer et faire un peu de bien dans le monde. Tout à l'heure, je vous ai dit que le salut de Dieu, c'est qu'il garde le bien et qu'il oublie le mal. Je crois qu'en chacun aussi, Dieu se souvient du bien qu'il y a dans chaque vie. Même le petit bien que chacun a fait est sauvé. Et le salut de Dieu, c'est ça. Et par conséquent, le but du monde, ce n'est même pas d'arriver un jour à une sorte d'état de perfection, que je vous ai un peu fait miroiter tout à l'heure en disant « le monde est imparfait, mais on y travaille, on y travaille ». Je ne sais même pas si c'est vrai. Peu importe que le monde arrive un jour à la perfection, le but ce n'est pas d'arriver à un monde parfait, ce n'est pas non plus que nous-mêmes nous soyons parfaits, que chaque vie soit parfaite. Dieu se contente de récolter tout le bien qui germe sur terre et tout le bien qui germe dans chaque vie. Et donc la confiance que nous pouvons avoir en Dieu, c'est qu'il y a une sorte de filtre, je dirais, que Dieu ne garde que les bons poissons qui sont dans la mer de la mort et du marasme de notre vie, et que Dieu arrive à en tirer les bons poissons à la surface, les éléments vitaux, pour les garder et pour oublier le mal. Et donc, en chaque vie, il y a du bien. Et finalement, il y a quelque chose qui est sauvé. Et du coup, nous sachons nous-mêmes, vu, je dirais, par ce regard amoureux de Dieu, qui fait que nos défauts ne comptent même plus, mais que Dieu ne regarde que le bien qui est en nous, on finit par y croire et se dire « mais en fait, je suis beau, je suis aimé, je suis moi-même capable d'aimer et d'être une lumière dans ce monde. » Et alors, nous sentant nous-mêmes aimés par Dieu et non pas écrasés par le péché de nos imperfections et de nos erreurs, nous devenons beaux, rayonnants et lumineux, comme la jeune mariée est belle, rayonnante, lumineuse et réjouit tout le monde et invite tous ses amis à sa noce en disant « Venez avec moi les amis, on va faire une fête extraordinaire parce que je suis heureuse, parce que je suis heureux et que je le partage avec vous. » Et ça, ça change tout. Ça change tout. Parce que transformer le monde, justement, dans une fête, dans une noce, c'est un thème repris combien de fois dans l'Évangile et est une chose absolument extraordinaire. Effectivement, je pense que le psalmiste n'a pas tort et que Rousseau avait tort. L'humanité n'est pas bonne à la base. L'humanité n'est bonne que s'il y a un Dieu qui la sauve. À la base de l'humanité, ce n'est que l'égoïsme, la méchanceté, la jalousie, les luttes de pouvoir, la lutte du plus fort. La morale ne suffit pas à mettre de l'ordre là-dedans et que ce qu'il faut, c'est à un moment donné rompre cette logique de la mort. Et qu'il faut rompre cette logique de l'échec, de la violence, cet aspect commercial de la religion où chacun a ce qu'il mérite. Il faut rompre ça pour faire basculer le monde dans une logique de l'amour, de la tendresse et de la grâce. Et cela s'est rompu justement par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu et par l'amour de Dieu. Et c'est ça qu'apporte Dieu dans une vie. C'est que justement l'irruption de l'amour dans une vie change une vie. Et l'irruption de l'amour dans le monde change le monde. Et ne pas croire en Dieu, sachant que Dieu n'est rien d'autre que l'amour. Refuser l'amour, c'est rester dans une sorte de vision triviale, désespérante du monde, qui ne peut mener qu'à la folie et à l'abomination. Croire en Dieu, ce n'est pas croire dans un bonhomme sur un nuage, c'est croire dans l'amour. Et de croire que l'amour peut transformer le monde, et croire dans la grâce, parce que si on est dans cette logique de la grâce et de l'amour, alors notre vie change de logique. On n'est plus dans la logique de la méchanceté, mais dans la logique de la reconnaissance. Et ça, c'est par là même, je crois, que Dieu crée le monde, qu'il transforme le monde, et qu'il arrive à convertir la mort en vie, qu'il arrive à convertir le péché et l'échec en salut, et qu'il arrive à convertir la tristesse en joie. C'est la plus grande des choses, et c'est ce qui donne le plus de sens pour une vie de lumière, de paix, d'amour, de joie et d'espérance, pour nous, pour tout le monde, pour le monde entier, et pour tout ce projet créateur merveilleux de Dieu qui va justement dans le sens de son amour. Amen. Thank you.